Projet qui a été porté par la PEPO et avec l'Institut national de santé publique du Québec. Puis dans la salle, Chantal Blouin, puis Nathalie Dumas qui faisait partie avec moi et d'autres personnes de l'équipe de gestion du projet. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Simplement un petit rappel de contexte dans lequel s'inscrivait ce projet-là. On le sait, depuis plusieurs années, il y a des efforts et une préoccupation croissante pour la promotion des saines habitudes de vie et plus, je vais parler davantage de l'alimentation, de l'activité physique au Québec. Martine Pajot a rappelé l'importance du programme national de santé publique. Le premier, 2003, renouvelé, révisé en 2008, annonçait déjà des axes stratégiques importants en la matière. Puis début des années 2000, avec notamment le groupe de travail provincial sur la problématique du poids, il y a eu aussi des avancées conceptuelles importantes pour justement essayer d'avoir une vision plus écologique qui faisait le pont entre l'individu et l'environnement sur les approches de prévention et de promotion. Et puis une attention accrue, notamment pour la prévention auprès des jeunes. C'est vrai que ça a pris une place aussi importante avec notamment le rapport Perrault. Puis on le sait, en 2006, le plan d'action gouvernemental sur la promotion des saines habitudes de vie, la prévention des problèmes reliés au poids. Et puis une étape aussi assez importante en 2007 de partenariat public-privé entre la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec qui a renouvelé, prolongé le mouvement Québec en forme avec un investissement important de 480 millions de dollars sur 10 ans, ce qui est assez rare en la matière. Alors, les collègues du ministère en parlaient ce matin, ces efforts-là, ça prend du temps avant de se concrétiser par des indicateurs. On a beaucoup parlé depuis quelques heures de l'importance de faire le pont entre les individus, les environnements, de renforcer les indicateurs, puis éventuellement d'avoir des indicateurs intermédiaires. Là, ce ne sont que quelques exemples de marge de progression qui touchent à la fois l'environnement et les individus en termes d'habitudes de vie. On parlait notamment de l'environnement ici, par exemple, en matière socioculturelle, sur la présence des établissements de restauration rapide près des écoles, sur l'insécurité alimentaire, on a beaucoup parlé d'inégalités sociales, mais qui peuvent aussi se traduire, cette marge de progression, par des actions dans nos environnements, par exemple en matière d'environnement, de politique qui favorise des environnements plus propices à l'activité physique au quotidien dans les quartiers, et qui peuvent notamment se manifester par le potentiel piétonnier dans nos environnements de vie pour favoriser un mode de vie plus physiquement actif. Ce ne sont que quelques exemples qui montrent que la marge de progression, aussi difficile soit-elle à caractériser par un ensemble d'indicateurs, est encore importante dans nos milieux de vie et à l'échelle de l'individu au Québec. Quel s'inscrivait le projet Comment faire mieux en 2014-2015 était lié au fait qu'un moment charnière était identifié par rapport à ces petits éléments de contexte que je viens de mentionner. D'une part, la fin du gouvernemental officiellement depuis 2012 et qui n'avait pas été renouvelé. L'entente Québec en forme qui devait arriver à son terme aussi, l'entente initiale en 2017. On était dans un contexte aussi de restructuration du système de santé, avec notamment l'abolition des agences régionales et des compressions budgétaires. À ce moment-là, c'était aussi le nouveau programme national nutrition santé, nouveau programme national de santé publique, pardon, qui était en préparation. Puis déjà était annoncée la nouvelle politique gouvernementale de prévention, qui est annoncée toujours prochainement. On avait identifié ici à la PEPO et avec nos collègues de l'Institut un moment charnière pour identifier des pistes d'ajustement, d'amélioration. Et les deux organisations partagent entre autres cet objectif, malgré leur positionnement différent, de conseil et de transfert de connaissances pour essayer justement de réfléchir au comment améliorer la situation. Donc c'est un petit peu la genèse et le contexte de genèse de ce projet-là, qui avait deux principaux objectifs, qui étaient d'une part de faire un état des lieux de la situation, dresser un portrait macroscopique. L'idée, c'était d'apporter une couche de compréhension supplémentaire. Il y a déjà beaucoup de rapports de synthèse sur différents éléments des interventions en promotion des saines habitudes de vie, des enquêtes populationnelles, des études publiées. Donc je dirais que l'objectif du projet Comment faire mieux, ce n'était pas d'aller collecter des nouvelles données, mais vraiment d'essayer de colliger un petit peu ces différents morceaux, ces différentes pièces du puzzle pour savoir ce qui se fait et d'essayer d'apporter une vision plus globale des efforts engagés, puis de les comparer avec ce qui est recommandé généralement de la littérature internationale. Avec le souci aussi d'aller vite, compte tenu du moment charnière dont je parlais. Donc on a fait des compromis, évidemment, en termes de portrait, pour essayer de, d'apporter des conclusions et des livrables qui seraient utilisables par le maximum de parties prenantes. Et puis donc, l'idée était de travailler pour formuler un rapport synthèse sur ce premier volet-là. Et le deuxième volet, docteur Carpentier formulait hier dans son introduction, dans son mot d'accueil, l'idée d'avoir des leviers actionnables. Ben, je dirais que l'objectif, l'intention aussi du projet Comment faire mieux, c'était de tenir compte du contexte québécois pour que dans tout ce portrait qui allait être fait et les recommandations qui allaient être consultées, qu'on essaye de piocher là-dedans ce qui peut-être avait le plus de potentiel d'être mis en place dans le contexte dans lequel on se trouvait. Et pour cela, on s'est dit que l'un des moyens que l'on pouvait utiliser, ce serait de consulter les parties prenantes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis l'accent sur un forum délibératif pour ce deuxième volet du projet. Puis, on a eu une sélection qui s'est concentrée sur 276 documents qui renseignaient sur l'expérience québécoise depuis 2006. De ces 276 documents, on a identifié 166 différentes interventions qui pouvaient pour beaucoup rayonner à l'échelle provinciale, certaines qui étaient plus spécifiques à certaines régions. Et puis on a essayé de les caractériser de manière assez globale pour essayer de connaître mieux les objets d'intervention, les échelles d'intervention, les bénéficiaires, les cibles ultimes de ces interventions, et puis sur quel type de techniques et dans quel type de milieu elles étaient déployées, encore une fois à l'échelle vraiment très macroscopique pour essayer d'avoir un peu les gros traits de ce qui se fait. Ensuite, l'objectif a été de comparer un petit peu ces gros morceaux, ces grosses pièces du puzzle aux recommandations internationales. Pour ça, on a essayé de faire une recension, là aussi, à partir de rapports publiés par des organisations de forte crédibilité scientifique au niveau international, qui déjà avaient fait cet exercice de recenser les meilleures pratiques, celles qui étaient les plus documentées. On a aussi regardé les revues systématiques et exhaustives de la littérature qui ont été publiées. Et on a essayé donc de s'intéresser aux documents qui avaient la plus forte pertinence dans le contexte québécois. On a retenu 58 documents. Puis l'idée, c'était vraiment d'avoir une analyse en miroir entre le portrait de l'expérience québécoise et les recommandations internationales. Donc on a distingué à partir de ces 58 documents 120 recommandations qu'on a essayé de faire rentrer dans le même type de typologie qu'on avait utilisé pour caractériser l'expérience québécoise, pour essayer de voir finalement là où il y avait le plus de choses qui avaient été faites par rapport à ce qui est recommandé et là où il y avait peut-être moins de choses qui avaient été faites au cours des dernières années. Une fois ces deux morceaux obtenus, on a produit un rapport préliminaire à peu près 6 mois plus tard, au mois de novembre 2014. Puis, comme je le disais au début, l'idée, c'était vraiment d'avoir une contextualisation des résultats de ce rapport en les confrontant un peu à l'expérience des acteurs qui étaient impliqués dans la mise en œuvre, la planification, la mise en œuvre ou même l'évaluation de ces interventions. D'où l'idée de constituer un groupe délibératif qui visait à représenter une diversité d'expertises et de parties prenantes. Alors évidemment, avec les limites inhérentes à ce genre d'exercice qui font qu'on ne peut pas toujours avoir toute la diversité et toute la représentativité des points de vue qu'on aimerait. Mais en tout cas, l'intention a été vraiment de diversifier autant que possible la constitution de ce groupe, qui s'est donc réuni pendant 2 jours à la fin de l'année 2014 sur la base du rapport synthèse préliminaire qui avait été partagé quelques semaines auparavant avec les membres. Donc on a eu une belle contribution des membres quelques mois plus tard à ce sondage qui a permis d'aboutir au résultat final du rapport Comment faire mieux et de son résumé, qui en fait met l'accent sur 3 catégories de recommandations ou de pistes d'amélioration plus exactement. Il était aussi question, dernier pas le moindre, dans les incontournables de l'évaluation. On a beaucoup parlé du fait qu'il y avait probablement beaucoup d'interventions qui avaient été mises en place, mais qu'elles n'avaient pas nécessairement été évaluées. Simplement, pour vous donner une indication, sur les 166 qu'on a recensées dans le portrait, il y en avait seulement une trentaine qui avaient disposé d'une évaluation documentée, j'entends. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas non plus été communiquées ou qu'on n'a pas trouvées. Et quand il y avait évaluation, la majorité des cas étaient des cas d'évaluation de processus et pas d'impact. Donc, on a vraiment ici observé des lacunes en termes d'évaluation de ce côté-là et qui tiennent généralement à des problèmes de ressources, des problèmes de temps, des problèmes aussi peut-être de partenariat entre les équipes de recherche et les intervenants qui ne disposent parfois pas toujours du temps et des compétences nécessaires pour mener à bien ces évaluations. Docteur Després parlait de l'importance des projets pilotes aussi. Donc, on a vraiment identifié ces éléments-là, l'évaluation comme des critères importants. Je voulais terminer en insistant sur des faits saillants. C'est vrai que globalement, ce qu'on a quand même observé, Martine disait, tout n'est pas négatif non plus. C'est vrai que globalement, il y a eu des progrès qui ont été faits. Ça prend beaucoup de temps. il y a des choses quand même qui sont très conformes au mouvement général dans lequel on doit avancer, que ce soit en termes d'intervention multifacette, individu, environnement. Donc on a quand même observé que le portrait de l'expérience québécoise, sur bien des aspects, était encourageant, mais qu'on avait souvent, en termes du côté intervention, une marge de progression importante aussi, de manière à mieux tenir compte de tout ce qui est coût, faisabilité, acceptabilité, et que c'était peut-être des dimensions qui n'étaient pas suffisamment prises en compte au moment de réfléchir au comment. Et donc, dans la recherche, au-delà de l'efficacité potentielle, on avait peut-être davantage intérêt à travailler sur les aspects économiques et politiques pour essayer d'éclairer les prises de décision et de travailler même en recherche en composant avec ces contraintes-là. Alors, bien sûr, le travail a de limites d'avoir travaillé assez vite avec des revues exhaustives et systématiques, mais pas forcément toutes très complètes autant qu'on l'aurait voulu. Le forum délibératif est un outil, mais qui ne permet pas non plus d'avoir toute la diversité des points de vue de s'exprimer, mais on a essayé de compenser au maximum au cours du processus. Je dirais que globalement, on a essayé de travailler aussi pendant quasiment 6 mois après la fin du projet pour la diffusion des résultats, parce que c'est bien beau d'avoir un petit résumé ou d'avoir un gros rapport, mais c'est toujours le défi de le transférer. Je dirais que le forum délibératif est aussi un bel outil pour ça.